On va ouvrir un moment les Écritures. Alors, je souriais tout à l'heure quand Cédric disait ce qu'il avait sur le cœur, parce qu'on va lire le Notre Père. Dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va faire la lecture et puis après, il y aura un petit support visuel. À peu près une année sur deux, j'utilise ce support. Alors, plusieurs, vous le connaissez. Pour d'autres, vous allez peut-être le découvrir. Rien d'extraordinaire en soi. Mais on va lire d'abord Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Et on va utiliser maintenant ce petit support. Alors je me le suis imprimé au cas où la vidéo ne fonctionne pas, mais c'est bien, merci Seigneur, il continue de fonctionner. Il nous a fait peur vendredi, depuis on a prié, il va mieux. Voilà. Je dis en plaisantant, mais c'est sérieux. Il a 9 ans, alors il a déjà bien tourné. Voilà. On va prendre ce support. Ça part de Noël. Ça va venir, hein? Y a un souci? C'est pas possible. Ça me gâche tous les faits. Alors, quelques instants, hein, on est en direct. Si je vous le montre sur le papier, pour ceux de devant, vous allez bien voir, mais ceux du fond, peut-être ce sera un petit peu plus délicat. Bon? Ah, voilà. Merci. On s'y est, me faire monter la transpiration là. Voilà, donc ce schéma, évidemment, il est connu. C'est le schéma de la naissance du Christ. C'est l'époque que nous sommes en train de nous rappeler. Et je crois que c'est bien que nous nous la rappelions parce que bientôt, il n'y a plus que nous qui allons s'en souvenir. Fait référence à l'actualité, la crèche, on ne veut plus en entendre parler. Voilà, donc ça veut dire que notre pays a déjà dépassé le stade de la laïcité, il verse dans l'athéisme. On ne veut plus entendre parler de Dieu d'une manière ou d'une autre. Même en Provence, où c'est culturel, je ne sais pas comment la question va être réglée. Donc, dans l'église, il y aura la crèche. Puisqu'elle ne peut plus être ailleurs, forcément. Il y aura la crèche dans l'église. Non pas parce que le Seigneur est dans cette mangeoire, où il a certainement été déposé, mais parce que c'est le souvenir de la naissance de Jésus. C'est vrai que la date n'est pas exacte, elle est arbitraire, mais il y a quand même un moment où il est né. Alors, puisque le monde entier le mentionne à cette période, on va se caler sur cette période, même si historiquement on pense que c'est plutôt au printemps, puisque c'est l'époque de l'agnelage. Voilà. Et le Seigneur est venu dans ce monde. Et les choses ensuite ont évolué. On passe à la deuxième photo. Et on commence à oublier, et on commence à enlever des choses Alors, il ne reste plus qu'un vague souvenir. On passe à la diapo suivante. Et puis, les choses, on commence carrément à les retourner. Et on a l'art et la manière de retourner les phrases, de retourner ce que les gens disent, retourner les vérités de la parole de Dieu. Et quand on a fini de retourner, voilà ce qui arrive. Voilà, on revient en arrière pour revoir le petit schéma du début jusqu'à cette diapo-là. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est juste une accroche que l'on utilise souvent au niveau des enfants. On célèbre Noël, la naissance du Messie dans cette crèche. Et puis on s'en souvient plus, on s'en souvient moins. Et puis, on commence à retourner les situations et on arrive au Père Noël que vous ne trouvez évidemment pas dans la Bible. Voilà. Parce qu'on a tellement oublié retourner les choses que de la venue de Jésus, ça finit simplement à se faire des cadeaux. Alors, on va continuer sur cette idée-là et l'appliquer à un texte de la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et on commence à oublier, face à la diapo suivante. Et il ne reste plus que notre Père qui est aux cieux, se rappelle encore qu'il est là-haut, que ton nom soit sanctifié, et puis on verse de suite dans Donne-nous. Aujourd'hui, notre pain quotidien, pardonne-nous, parce qu'on a quand même le souvenir que devant Dieu, on ne peut pas se présenter comme ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, on a besoin de ta grâce. Amen. Et puis on continue d'oublier, d'inverser les choses. Notre Père qui est aux cieux, on sait toujours qu'il est là-haut. Donne-nous notre pain quotidien, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Amen. Et on continue d'oublier, et il ne reste plus que notre Père, je ne sais plus trop où il est. Donne-nous, délivre-nous du malin. Amen. Et puis je me suis permis d'en rajouter une. Ben, quand on prie, on ne sait même plus comment il s'appelle. Mais si tu existes, ben, donne-nous. Amen. Voilà. Alors je ne vous dis pas si on continue d'enlever, il ne reste plus rien. Et c'est la réalité de nos vies. C'est la réalité de nos vies. C'est la réalité de ce monde. Par rapport aux vérités de la parole de Dieu, par rapport à ce que le Seigneur a apporté aujourd'hui de Noël, eh bien, il ne reste plus que les cadeaux. Le Père Noël a remplacé le Père qui est aux cieux. Et puis, on a rajouté d'autres choses. Et on a l'impression que, comme cela, qu'il reste un soupçon de chrétienté dans notre monde. C'est faux. Et ce que l'on vient de vivre ces derniers temps vient de donner le dernier coup de balai. On verse dans l'athéisme. Alors on va lire encore un passage des Écritures. On peut arrêter s'il vous plaît pour l'artérielle. Dans 1 Corinthiens 4, 6. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Nous nous comptons sur lui. Mais au point où le monde en est rendu, maintenant, le Seigneur nous dit, moi aussi j'ai besoin de vous. Sans vous, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas, mais c'est que Dieu a besoin de nous. Et c'est pour cela que l'on va lire dans 1 Corinthiens 4, le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et on va garder, on va utiliser ce passage, on va le sortir de son contexte pour utiliser simplement une affirmation afin que vous appreniez en nos personnes. Et le monde aujourd'hui apprendra à connaître Dieu au travers de ses enfants, au travers des chrétiens que nous sommes. Certains n'ont pas eu de père, malheureusement. Les familles sont mises à mal. Et les temps qui sont devant nous, malheureusement, ne vont pas améliorer la situation parce que certains n'auront même plus la notion de père, de mère, avec exactitude. Voilà. Donc, afin que vous appreniez en nos personnes, et Dieu compte sur nous pour que nous soyons, d'une certaine manière, la parole incarnée, la parole faite chair, parce qu'il a donné sa vie, lui, pour le salut de nos âmes. Et lui, il est la parole faite chair. Et aujourd'hui, Il a gravé sa parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, il vit en nous. C'est pour cela que, en ce jour de Noël, cette période de Noël, c'est bien de s'en rappeler, de l'affirmer, c'est pour cela que nous ne devons pas, nous, les croyants, les chrétiens, si nous disons et si nous prétendons dans le bon sens du terme être de vrais chrétiens, nous ne pouvons pas être à demi-mesure. Parce qu'il y a une notion de visibilité. Puisque le monde ne voit plus rien, tout a été effacé, tout a été modifié, tout a été complètement transformé. Donc le monde ne voit plus rien des choses de Dieu, le monde va voir ce qui concerne Dieu au travers de ses enfants. Et donc, nous avons un devoir de visibilité en tant que chrétiens nés de nouveau. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, attention, il faut qu'on le soit de A jusqu'à Z. Si nous disons que nous allons dans la maison de Dieu, nous nous mettons en position de leader, d'exemple, de modèle. Et à partir de là, il faut que notre vie corresponde à ce que les hommes et les femmes vont découvrir quand ils liront les Écritures dans tous les domaines de la vie. Une question de visibilité. Afin que vous appreniez en nos personnes. Alors, d'un côté, il est dit à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais je me suis permis de dire, et de l'autre côté, ne pas aller en deçà non plus. Et nous ne devons pas prétendre être plus que ce que le Seigneur veut pour nous. On n'a pas à spiritualiser les choses, mais on n'a pas non plus à simplement adapter ce que le Seigneur dit dans sa parole à notre façon de vivre, et on se retrouverait en deçà. Il y aurait de la chrétienté en nous, mais pas que. Nous devons, dans tous les domaines de notre vie, et c'est une question de visibilité. Alors, dans le Notre Père, voici comment vous devez prier. Et là, le chrétien que je suis, les chrétiens que nous sommes, nous devons, dans notre prière, toujours respecter l'équilibre que le Seigneur a mentionné. Parce que sinon, nous allons finir avec « Donne-nous ». Amen. C'est bien. Il y a du Notre Père. On retrouve une partie du Notre Père, mais il y a du mélange et de la perte en ligne, comme on dit. Non. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et dès le départ, nous devons orienter notre esprit, nous devons orienter notre cœur vers le lieu où Dieu siège. Et ça fait une différence majeure. Voilà. Et c'est une question pour nous d'orientation dans la prière, c'est une question aussi de visibilité. Voici donc comment vous devez prier. Que ton règne vienne. Et c'est la première, que ton nom soit sanctifié. Et quand dans notre prière, nous allons dire, soit en répétant le Notre Père, soit quand nous allons faire notre propre prière, avec nos propres mots par rapport à la situation que nous traversons, ça doit commencer de la même manière. Tu es saint, Seigneur. Et je ne veux pas m'adresser à toi en occultant, en oubliant le niveau de sainteté qui est le tien et qui doit être le mien. Ça veut dire que la prière va toujours nous tirer vers le haut. Et nous allons devenir saints dans tous les domaines de notre vie. Ce n'était pas le cas, mais nous commençons à prier. Et la première chose qui se passe quand nous commençons à prier, c'est que nous nous approchons de Dieu. À partir de là, des choses vont changer dans notre vie, avant même que Dieu réponde au sujet de la prière. C'est simplement une question d'orientation, de cheminement. Celui qui prie et qui dit « Seigneur, que ton nom soit sanctifié » ne peut pas rester avec une vie qui ne devient pas sainte. Ce n'est pas possible. Celui qui avait une vie qui n'était pas sainte et qui commence à prier, il va changer. Et là, c'est obligé. C'est forcé. On ne peut pas rester. Sinon, ça veut dire que dans notre cœur, il y a de la mauvaise volonté, il y a du refus par rapport à ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Dieu veut que nous soyons saints comme lui, et le monde verra, à partir de la sainteté de ma vie, de nos vies, qui est Dieu. Et quand nous parlerons de Dieu, ils l'entendront, ils le comprendront, parce qu'il y aura de la vérité en nous, parce qu'il y aura de la sincérité en nous, parce qu'il y aura de l'amour en nous, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y aura de la sainteté en nous. Voilà. Les saints, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. C'est nous. J'insiste là-dessus parce que la religion, une religion, prie les saints, ils sont tous morts. C'est facile. Du coup, les vivants, ils sont libérés de la question. Moi, je suis pas saint. Peut-être qu'un jour, on me canonisera. Mais en général, c'est une canonisation post-mortem. Voilà. On dit, une fois qu'il est mort, il était très bien. Voilà. Soyons très bien de notre vivant. Soyons canonisés de notre vivant. Amen. Alors, Saint Pascal, je ne vais pas dire prier pour nous. Attention, hein, parce que je vais taper au hasard, là. Saint Marc, sans jeu de mots, priez pour nous. Sainte Sandrine, priez pour nous. Saint Jean-Louis, extraordinaire. Hein. Je ne sais pas de quel métier vous êtes le protecteur, voilà, mais priez pour nous. C'est ce que nous sommes appelés à être. Hein. Ça, j'ai pris que des hommes, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Ah non, c'est Sandrine. Voilà. Et ne remettons pas ces questions à des saints qui n'existent pas, comme la Saint-Glinglin. C'est aujourd'hui que ces choses doivent être vraies dans notre vie. Dans la prière, la sanctification est la première étape que nous allons franchir. Que ton règne vienne. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans le règne de Dieu? Dans la dimension que Dieu va établir quand il prendra la première place sur toute chose, que ton règne vienne, sous-entendu, prend déjà la première place dans ma vie. Et on n'a pas encore attaqué les sujets de prière, mais on est dans le positionnement des choses, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, le Seigneur pourrait dire, eh bien, on va commencer par ta vie, par ma vie. Si je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, alors c'est sous-entendu que je la connais. Puisque je suis d'accord pour demander qu'elle soit faite, c'est au minimum que je la connais. Parce que si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, ne demandez pas à Dieu de la faire. Sinon, vous êtes dans la religiosité. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez avec Dieu, mais moi, je préfère parler à Dieu de choses dont je suis convaincu, que je connais. Voilà. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ce monde, dans la vie de ces personnes pour lesquelles j'intercède, de ma famille, etc. Mais ça veut dire, a fortiori, dans ma vie, que ta volonté soit faite. Et après, on attaque le « donne-nous ». Le « donne-nous ». Je vais m'arrêter là. Mais nous, on a évacué les premières étapes qui sont déterminantes, majeures. Et on est arrivé directement au « donne-nous ». Et le monde, quand il prie, c'est « donne-nous ». « Donne-nous ». « Pardonne-nous », parce qu'on n'a pas oublié quand même cette notion-là. On ne peut pas se présenter comme ça devant toi, mais « donne-nous ». Mais la sanctification. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie, c'est le préalable. J'oserais même dire que s'il n'y a pas ce préalable, je ne pense pas qu'il y ait le reste. Je ne pense pas qu'il y ait le reste. Parce que le Seigneur ne répond pas à ceux qui multiplient de vaines paroles et qui font simplement une démarche intéressée vers lui. On va prendre un autre exemple pour montrer tout ce qu'on a retiré. Dans Romains chapitre 6, verset 3, il est question du baptême. On a déjà parlé du baptême d'eau. On a parlé aussi du baptême du Saint-Esprit. On va en parler un instant. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous, et ce matin, un grand nombre parmi nous sont baptisés d'eau. Et baptisés d'eau, pardon. Parce que nous l'avons décidé. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est mort et ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et voilà le baptême. Et nous ne pouvons pas être amnésiques par rapport au baptême que nous avons pris. C'est un vrai engagement que nous avons pris, qui est passé, c'était le préalable, par la mort et la résurrection. Je suis mort à une vie sans Dieu et je suis né à une vie avec Dieu. Et c'était le préalable. Et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et de même que Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et nous marchons en nouveauté de vie. Un chrétien baptisé qui ne marche pas en nouveauté de vie, il a oublié la purification de ses anciens péchés. Et certains ont oublié la purification de leurs anciens péchés. J'ose croire que quand ils se sont fait baptiser à cause du pardon des péchés. Et pas simplement parce que ben, on aime le Seigneur, il a touché notre cœur, et je sais qu'à la croix, il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Oui, oui, oui. Là, on est encore dans les vérités d'ordre général. Mais il faut qu'il y ait une application à la personne, à chacune et à chacun d'entre nous. Pour mon péché, mort et ressuscité. Et j'ai pris un engagement à marcher en nouveauté de vie. Et quand nous avons pris un engagement pour lequel personne ne nous a forcé, eh bien le Seigneur est en droit de dire « Eh, il faut suivre l'engagement, sinon il ne fallait pas le prendre. » Alors, permettrez d'être un petit peu provocateur dans la méditation, mais vous, nous avons pris un engagement. Et cette période de Noël doit nous amener à nous rappeler, non pas qu'il est venu, merci Seigneur, et on va se faire des cadeaux, j'espère que vous n'avez pas oublié de les préparer, parce que sinon ça va froisser quelqu'un, mais il n'est pas venu que pour qu'on reçoive des cadeaux. Il est venu pour donner sa vie à la croix. Alors on dira, parce qu'on s'en sort toujours, c'est le plus grand des cadeaux. Oui, merci Seigneur. Alors si j'ai ouvert le paquet, dans ce paquet, il y avait « Tu es mort, il est mort pour toi et ressuscité pour toi. » Et si toi, tu as signé, tu es sauvé, parce que tu es mort et tu es ressuscité. Et tu marches en nouveauté de vie. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est une question aussi de lisibilité. Le monde verra de vrais chrétiens qui marchent selon les valeurs de la parole de Dieu. En nouveauté de vie, on n'est pas prétentieux, on ne donne la leçon à personne, mais on a un chemin que le Seigneur nous a tracé. Nous vivons, comme dira Paul aux Romains chapitre 8, on tourne une page, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, on est bien sur la notion du baptême et de la résurrection, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et je reviens à l'image de tout à l'heure, si nous ne veillons pas, nous-mêmes, on va commencer à perdre des choses en route. Voilà. Et nous allons commencer à vivre en tant que chrétiens, un peu selon l'esprit, un peu selon la chair. Voilà. Et de l'un à l'autre, la proportion, elle varie. Et peut-être que dans ma vie, d'un jour à l'autre, la proportion, elle varie. Ce serait tellement bien que nous soyons stables. Les enfants attendent que les parents soient stables. Qui, d'un jour à l'autre, ils n'aient pas leurs propres humeurs. Eh bien, le monde attend que les chrétiens soient stables. Ils vivent toujours pareil. Tous les jours, quoi qu'ils vivent, quoi qu'il leur arrive, ils sont fidèles. Ils demeurent attachés au Seigneur. Mais ça, c'est une question d'état d'esprit, d'état de cœur. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Quand il y a une catastrophe en France et qu'on interviewe les gens qui ont subi la catastrophe, inondation ou autre, la plupart pleurent. Et en même temps, malheureusement, de l'autre côté du monde, il y a des raz-de-marée, etc. On interviewe les gens, ils parlent avec le sourire. Je dis, il y a un truc là. Ça ne vous a pas interpellé? Ils ont perdu, ils ont tout perdu, et par rapport à nous, leur perte est plus grave, parce qu'il n'y a pas les mêmes aides derrière pour repartir et reconstruire. Mais voyez des gens qui parlent avec notre regard, notre approche. Alors on dira, c'est la mentalité asiatique. Mais écoutez, quand vous avez perdu la maison et la famille, vous avez quand même perdu quelque chose de terrible. Mais ils ne versent pas dans la même réaction. Ce que je veux dire par là, c'est que on est avec des réactions qui ne sont pas spirituelles, mais qui sont complètement radicales, radicalement différentes de l'un à l'autre. À combien plus forte raison pour nous, qui avons l'Esprit de Dieu. Si des difficultés nous arrivaient, je ne veux pas dire qu'on va sourire, mais nous ne pouvons pas perdre pied comme si Dieu n'était pas avec nous. Nous ne pouvons pas chanceler comme si nous étions abandonnés des hommes, peut-être, de Dieu, jamais. Et cela, eh bien, c'est ce que nous devons être les uns et les autres, parce que le monde ne va pas épargner les croyants dans les temps qui sont devant nous, et il va falloir que l'on tienne la route, et qu'on reste de vrais chrétiens, comme ceux qui nous ont précédés, pour lesquels on lit parfois les livres d'histoire en disant, mais formidable, je ne sais même pas si j'aurais pu résister comme ils ont résisté, mais pourtant ils ont résisté. Et ils l'ont fait par la grâce de Dieu, parce qu'ils vivaient selon l'Esprit. On parle du baptême de l'Esprit, et je vais vous parler d'une seule chose qui est primordiale dans la vie de l'Esprit, dans le baptême de l'Esprit, c'est dans 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors je ne veux pas dire que le baptême de l'Esprit n'a pas d'importance, mais celui qui parle en langue, s'il n'a pas l'amour aussi fort qu'il parle en langue, c'est une cymbale qui résonne. On va le lire, 1 Corinthiens 13. Alors ce soir, vous le verrez, ce que ça fait, le raisonnement d'une cymbale. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et je pense que ce que le monde attend, c'est le fruit. La chose la plus importante de notre vie venant de l'esprit, c'est le fruit. Les dons viendront après. Les dons spirituels viendront après, mais c'est l'amour. Mes frères et sœurs, nous tous qui avons reçu l'Esprit, qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous devons manifester un amour au-dessus de la moyenne. Et largement au-dessus de la moyenne, parce que la barre, c'est Dieu qui l'a posée. À la hauteur qu'il a estimée être la bonne hauteur. Jusqu'à aimer ses ennemis. Jusqu'à aimer son frère, sa sœur, quand bien même il pécherait contre nous, et le pardonner, quand bien même, il pécherait 7 fois. C'est ce que souhaite entendre l'apôtre Pierre, mais le Seigneur va lui répondre avec une autre mesure. Ne compte pas, toi, ce que je compte sur toi pour que tu aies l'amour. Le reste, c'est l'affaire de chacun, et je m'en occupe. Et le Seigneur s'occupe de tout le monde. Si nous, nous nous occupons de lui, et si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste, il va s'en occuper. Et si devant une situation, je manifeste l'amour, ça va être d'une efficacité, mais on n'a pas encore mesuré l'efficacité de ce que Dieu a établi, parce qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté. Mais dans une situation donnée, manifester l'amour plus que toute autre chose, et vous allez voir comment Dieu est capable d'intervenir sur cette base-là. Parce que son enfant veut digne de lui, alors Dieu va se faire un point d'honneur à honorer la foi. Voilà. Manifester ce que Dieu a établi. Et que personne ne dise, mais moi je parle en langue et je suis baptisé du Saint-Esprit. Écoutez, je vais peut-être vous provoquer. Moi, je n'ai rien à faire de quelqu'un qui parle en langue et qui est baptisé du Saint-Esprit et qui apporte des dons spirituels. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il manifeste l'amour. L'amour pour son frère, pour sa sœur, pour ses enfants. Parce que si vous apportez des dons spirituels à l'église, mais qu'à la maison, vous ne manifestez pas l'amour qui vient de Dieu, vous allez peut-être faire du bien aux autres, ou plutôt Dieu va faire du bien au travers de vous, aux autres. Ce n'est pas moi qui fais du bien, c'est Dieu. Mais vous allez faire du mal à ceux pour lesquels ce n'est pas des dons spirituels qui vont toucher leur cœur, mais c'est l'amour de Dieu manifesté au travers de ses enfants. Et on se trompe toujours sur cette question-là. Je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai mon cachet. Voilà. Je suis comme il le faut, rien du tout. Si je n'ai pas l'amour, bing, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Paul dira, je parle en langue plus que vous tous. Si vous parlez en langue, que l'amour soit plus grand, soit plus fort. Voilà. On continue, on va prendre un autre sujet. Que le mariage soit honoré de tous. D'ailleurs, pourquoi vous parlez du baptême du Saint-Esprit au mariage? Ben, en fait, tout simplement parce que je suis en train de faire une colonne vertébrale avec l'instruction à la vie chrétienne, où on a commencé à parler du baptême d'eau, de la conversion, du baptême de l'Esprit, Et moi, je demeure convaincu que la plus grande étape après la conversion et le baptême de l'Esprit dans notre vie qu'il faut réussir, c'est notre vie de couple. C'est notre vie à deux. C'est déterminant. Et je pense que c'est dans cet ordre que les choses doivent se mettre en place. Le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? Parce qu'il y a une base d'engagement. Il y a une base d'engagement. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'engagement, ben voilà. Dès le départ, c'est intégré qu'on ne s'engage pas pour toujours. Alors sur cette base-là, comment vous voulez construire le lendemain? Comment vous voulez arriver à demander à Dieu, Seigneur, dirige-moi pour demain quand vous avez déjà inconsciemment ou consciemment prévu que, de toute façon, à un moment donné, vous prenez une autre orientation? Non. Que le mariage soit honoré de tous parce que c'est un engagement. Et si le Seigneur l'a établi comme quelque chose d'important, que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il l'a mis à ce niveau-là, c'est parce que l'engagement, c'est d'abord lui qui l'a manifesté pour vous. Sinon, ne vous engagez pas. Il faut être cohérent. Soit vous vous engagez jusqu'au bout, soit vous ne vous engagez pas du tout. L'engagement et la fidélité, c'est la base, la force du mariage. Et le monde aujourd'hui a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont engagés l'un envers l'autre et qui sont fidèles l'un à l'autre. Ce n'est pas pour pointer du doigt ceux qui, malheureusement, n'ont pas réussi, pour quelque raison que ce soit, mais c'est en même temps la démonstration qu'il faut que, ben, on arrive à réussir par la grâce de Dieu, parce qu'on n'y arrivera pas sans la grâce de Dieu. Mais avec la grâce de Dieu, on va réussir à s'engager avec quelqu'un et aller jusqu'au bout. On va réussir à être fidèle. Le monde mettra tous les obstacles pour que l'engagement ne tienne pas et que la tentation passe par là. Et c'est à nous de veiller. On va revenir à la prière. Il faut que rien ne manque dans ma prière. Parce que si la notion de sainteté manque, la notion d'engagement, je ne vais plus la capter. La notion de fidélité, non plus. Mais quand j'aurai toujours à bon niveau la notion de sainteté, l'engagement va avec, la fidélité va avec. Parce que si j'oubliais ça, je descends jusqu'à Donne-nous. Élevez les enfants. Paul dira aux Éphésiens, Père, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les. On va lire dans Colossiens 3, 21, un petit passage à ce sujet. Colossiens chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. C'est quand même fort que l'apôtre écrive à des chrétiens. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Est-ce que ça veut dire que à Éphèse, à Colosse, puisque c'est écrit dans les deux lettres, il y avait des pères devenus chrétiens qui versaient dans un excès, une spiritualité excessive, jusqu'à mettre une chape sur les enfants. Les enfants, tant qu'ils ne sont pas convertis, ne sont pas des chrétiens. D'accord? Donc on n'a pas à leur mettre un niveau d'exigence qui, en plus, peut-être nous ne respectons pas nous-mêmes. Tu as lu ta Bible aujourd'hui? Papa et toi? Ben, je ne te parle pas de moi. Tu as lu ta Bible? Voilà. Nous, on a vu des parents punir les enfants en leur faisant apprendre des versets bibliques ou recopier des textes de la Bible. Comment vous voulez qu'ils aiment la parole de Dieu après? C'était leur sujet de punition. Il faut arrêter. Heureusement que le Seigneur ne nous punit pas en nous faisant recopier des passages de l'Écriture. Ce seraient nos patères et ave évangéliques. Voilà, vous allez réciter, vous allez recopier, et après vous serez pardonné. Non? N'irritez pas vos enfants. Quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Ben oui, mais ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Alors c'est toujours délicat. Mais nous ne pouvons pas attendre d'eux et mettre à leur un niveau d'exigence qui ne les concerne pas. N'irritez pas vos enfants et prendre le risque de les décourager, de croire en Dieu, de venir dans la maison de Dieu. Voilà. Nous devons veiller à ce niveau-là. Et comment alors les encourager? En étant nous-mêmes des modèles. Il y a un temps, on peut leur dire les choses, il y a un temps, on ne peut plus les dire. Alors on va continuer de prier. Mais notre prière sera efficace parce que quand on pouvait dire, on a dit les choses comme il convenait, comme il fallait. Non pas sous forme de sentences, non pas sous forme de règles et de décrets qu'on leur imposait. Voilà. Parce que trop souvent dans la religion, on impose, aux enfants en particulier, c'est toujours eux qui trinquent. Voilà. Laissons-les libres, les enfants. Ils viennent dans la maison de Dieu, et bien quand ils viennent, quelque chose est prévu pour eux. Mais ils ne sont pas obligés d'y aller. Ne les obligez pas à y aller pour rester tranquilles au culte. Ne commettez pas cette erreur. S'ils ont envie d'y aller, tant mieux. Merci aux moniteurs, monitrices qui s'en occupent. Ça veut dire qu'ils font bien les choses et que les enfants ont envie de venir. Mais c'est simplement sur cette base-là. C'est un plus par rapport à ce qui est fait à la maison. En même temps, et je termine avec ce point, il faut que ce qui est fait à la maison soit cohérent avec ce qui est fait à l'église. Parce que si à l'église quelque chose est fait, mais à la maison il n'y a rien qui est fait, il y a un trou terrible. Et si à l'église les choses sont faites avec, comme c'est fait ici, et je le sais, avec simplicité, avec envie qui est donnée aux enfants de participer, et je pense qu'ils doivent l'attester quand ils rentrent à la maison, que vous à la maison, ça ne parte pas dans l'autre sens, avec contrainte, avec obligation. Voilà, on va prier à midi. Je ne sais pas comment vous faites, nous on le faisait, mais les enfants n'étaient pas obligés de prier. Ils le faisaient à mieux, mais s'ils ne le faisaient pas, ce n'était pas un reproche à la clé. D'accord ? Ce n'était pas une réprimande. Ne les décourageons pas. Et puis je termine avec ce passage. Nous sommes ressuscités dans Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, dans la mesure où nous sommes ressuscités, ne nous comportons pas comme des personnes qui ne le sont pas. Nous sommes ressuscités. Nous sommes nés de nouveau. Ce qui me touchait avant ne me touche plus. C'est mort. Un corps qui est mort, vous avez beau le piquer. D'ailleurs, on vérifie ça avec les croque-morts. Enfin, ça ne se fait plus comme ça se faisait, mais voilà, on les mordait. Ben, allez-y, mordez-moi. Je ne réagis plus. Je ne ressens plus. Mordez-moi. Voilà. Que personne ne le fasse réellement à la sortie, mais voilà, si quelqu'un veut le faire, il va falloir que je mette en application la parole. Voilà. Et nous devons être des modèles, afin que vous appreniez en nos personnes. Et le monde a besoin de cela. À cette époque de Noël, et je termine avec ça, ce que Dieu attend, c'est que nous relevions le défi pour que le monde voit ce que c'est de croire en Dieu. Dans toutes les situations que l'on traverse, de rester fidèle, ce que c'est de prier, parce que le monde ne sait plus prier, ce que c'est que de rendre témoignage, d'être de vrais exemples et de vrais modèles. C'est un travail important. Mais Dieu compte sur nous, mes frères et sœurs. Si les chrétiens ne le font pas, le monde n'a plus rien à voir. Puisqu'on a tout changé, tout effacé, tout modifié. De Dieu dans ce monde, il ne reste plus rien de juste. Sinon ses enfants. Alors la charge maintenant, elle pèse sur nos épaules et le Seigneur va nous y aider. Par sa parole et par son esprit.